Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, dont son rapport annuel sur les droits humains dans le monde. Amnesty International alerte sur la situation dans l'enclave palestinienne. Un génocide commis en direct, selon Amnesty. Sur le sujet, Aymeric Hulluin, responsable de plaidoyer, arme à Amnesty International France dans cette édition. Meurtre dans une mosquée, des instances musulmanes reçues par Emmanuel Macron dénoncent un climat islamophobe. Le président de la République les a assurés du soutien de la nation. Les détails dans quelques instants. Météo, des températures estivales aujourd'hui sur l'ensemble du pays et particulièrement dans le nord. Météo prévoit des fortes chaleurs. Aujourd'hui, les températures pourront même atteindre jusqu'à 26 à 30 degrés. Les précisions dans cette édition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que le Moyen-Orient est à un tournant critique, soulignant le danger de l'effondrement complet de la solution à deux États. Il a exprimé sa profonde inquiétude concernant la situation à Gaza, où environ 2000 Palestiniens ont été tués depuis l'effondrement du cessez-le-feu le 18 mars. Et toujours sur la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, dans son rapport annuel sur les droits humains dans le monde, Amnesty International alerte sur la situation dans l'enclave palestinienne. L'ONG dénonce un génocide commis par Israël dans ce territoire, un génocide commis en direct selon Amnesty. Je vous propose d'écouter Aymeric Hulluin, responsable de plaidoyer Amnesty International France. Écoutez-le.
On oublie souvent qu'un génocide, ce n'est pas seulement le fait de tuer directement quelqu'un. Un génocide, c'est le fait de soumettre quelqu'un, une personne, membre de ce groupe protégé, à des conditions d'existence telles que, progressivement, la mort va arriver. La mort, elle n'est pas immédiate. C'est une mort par asphyxie qui est lente et qui est néanmoins inéluctable et qui va entraîner votre mort. Et c'est ce qu'on a documenté.
Et si les instances judiciaires internationales utilisent le terme de génocide, qu'est-ce que cela peut changer? Quelle peut être l'implication de l'utilisation de ce terme par les instances officielles?
Le premier point, c'est que pour les victimes, il est important de reconnaître le crime qui est commis. Donc déjà, c'est un signal envoyé aux victimes en disant « Regardez, les souffrances que vous subissez, elles peuvent être qualifiées juridiquement et elles peuvent être qualifiées en tant que crime de génocide et un jour, vous pourrez obtenir réparation. » Nous incitons par exemple la Cour pénale internationale qui a délivré des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les officiels israéliens et palestiniens, membres du groupe armé notamment Hamas, Premier ministre israélien d'un côté et ministre de la Défense également Yoav Gallant du côté israélien. Nous incitons la CPI à enquêter pour qu'il y ait des mandats d'arrêt pour crimes de génocide qui soient commis, qui soient délivrés. La Cour internationale de justice travaille. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important à retenir, c'est que la Convention de 48 parle d'elle-même. La Convention de 1948 est dédiée à la prévention et à la répression du crime de génocide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les États partis à cette Convention n'ont qu'une seule obligation, c'est de prévenir le crime de génocide qui est commis ou qui risque d'être commis. Nous, le crime de génocide, en tant qu'ONG, nous le documentons. La Cour internationale de justice, elle parle de risque plausible de génocide. Donc à partir du moment où, dès janvier 2024, la Cour internationale de justice a qualifié le fait qu'il était possible, qu'il était plausible que nous étions face à un risque de génocide, les États partis au statut de Rome et au-delà d'ailleurs, et à la Convention de 48, n'avaient qu'une seule obligation, c'est tout mettre en œuvre pour que le crime commis cesse. Arrêter les transferts d'armes, faire en sorte que l'aide humanitaire... Rendez-vous compte, là, depuis un mois, l'aide humanitaire n'est pas rentrée. Et pendant tout le temps de l'enquête que nous avons menée, nous, du 7 octobre à début juillet, 7 octobre donc 2023 au 7 juillet, au début juillet 2024, le nombre de camions qui rentraient était largement insuffisant pour permettre à l'ensemble de la population de survivre. Il faut imaginer dans quel état de détresse physique, mentale vous vous retrouvez lorsque vous devez subvenir à l'ensemble des besoins de votre famille, ne serait-ce qu'en eau. Moi, je sors dans la rue, là, je vais m'acheter une bouteille d'eau. Vous ne pouvez pas là-bas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture, vous pouvez pas manger. Couplé à la problématique de l'accès à des soins de santé, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui permet de dire aussi qu'il y a crime de génocide, c'est que les attaques, l'ensemble des actes illégaux qui sont dénoncés, sont faits de façon simultanée et façon systématique.
C'était Émeric Luin, responsable de plaidoyer Amnesty International France au micro de François-Xavier de Calonne. Et 51 corps et 113 blessés ont été admis en 24 heures dans les hôpitaux de la bande de Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé local. En Syrie, le gouvernement a signé un accord avec les Druzes de Damas après un attentat mortel dans la région. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shibani, a annoncé une rencontre avec des responsables américains à New York dans le but de trouver une feuille de route pour alléger les sanctions. Le Royaume-Uni, de son côté, a annoncé avoir mené une frappe aérienne conjointement avec l'armée américaine, ciblant une unité de production de drones des rebelles Houthis au Yémen. Ouais, je vous le disais dans les titres, Emmanuel Macron a reçu hier des représentants d'institutions musulmanes. Cela après l'assassinat d'Aboubacar Cissé vendredi dernier dans une mosquée du Gard. Le président de la République les a assurés du soutien de la nation, François-Xavier de Calonne.
Oui, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, et la présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris, Najat Ben Ali, reçue par le chef de l'État, ont dénoncé un climat islamophobe ambiant. Ils demandent des actes concrets pour protéger les musulmans après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Shamseddine Hafiz et Najat Ben Ali précisent avoir exposé le sentiment croissant de colère et de peur qui habite de nombreux musulmans en France. Ils estiment que la non-qualification du meurtre d'Aboubacar Cissé en attentat terroriste nourrit l'impression d'un traitement inégal et d'un deux poids deux mesures préoccupante. Ils appellent les pouvoirs publics à des actes concrets et des décisions courageuses et demandent le renforcement de la lutte contre la haine anti-musulmane. Emmanuel Macron leur a indiqué que le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. La République, a-t-il ajouté, garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. La Grande Mosquée et la coordination des associations musulmanes de Paris soulignent que le chef de l'État leur a dit que la liberté de culte est intangible. Il a annoncé des mesures à venir pour renforcer la protection des lieux de culte. C'est dans ce contexte que s'est ouverte ce matin une réunion des membres du Forum de l'Islam de France au ministère de l'Intérieur. Les membres du FORIF, reçus à l'ordre demande par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le FORIF qui est une instance censée faciliter le dialogue des musulmans avec l'État.
C'était donc François-Xavier de Calonne. Et alors que de nombreuses communes d'Île-de-France ont rendu hommage, je vous le disais hier soir, à Aboubacar Cissé, ce fidèle musulman de 22 ans tué vendredi dans une mosquée du Gard, une femme de 26 ans a porté plainte après une agression. Ça s'est passé en début de semaine, lundi, à Poissy dans les Yvelines. La femme affirme s'être fait arracher son voile à Poissy dans les Yvelines. La maire de la ville dénonce une agression islamophobe qu'elle condamne fermement. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Wallis, la jeune femme de 26 ans a porté plainte ce lundi à Poissy après une agression lors de laquelle son voile a été arraché. Selon le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, l'auteur, toujours en fuite, aurait également aspergé la victime et son bébé en poussette d'un liquide non identifié. Les faits se sont produits dans l'après-midi à la sortie d'un supermarché alors que la mère rentrait chez elle. La maire de Poissy, Sandrine Bernos dos Santos des Républicains, a qualifié l'agression d'islamophobe sur X, exprimant sa plus vive indignation et son soutien à la victime qui se trouvait avec son bébé en poussette. Elle a ajouté « Ce geste abject est une atteinte à nos valeurs et à notre humanité commune » avant de recevoir les représentants du culte musulman local. Le préfet Frédéric Rose a condamné fermement cet acte violent et saisi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau tout en organisant une réunion d'urgence avec le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines. Ce dernier a alerté sur un climat anxiogène et salué la réactivité des autorités selon un communiqué publié mardi soir. L'agression intervient 5 jours après le meurtre d'Aboubacar Cissé, un fidèle poignardé dans une mosquée du Gard. Le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines a rappelé que la confiance entre les institutions et la communauté musulmane est cruciale en ces moments de tension. Les chiffres du ministère de l'Intérieur confirment une hausse de 72% des actes anti-musulmans sur le premier trimestre 2025, avec 79 recensés. Le député Carl Olive du parti politique Horizon a exigé une réponse pénale exemplaire, tandis que des patrouilles policières renforcées ont été déployées autour des lieux de culte à Poissy. La mobilisation reste forte à Poissy, où des rassemblements spontanés ont eu lieu devant la mairie, symbole d'une communauté sous le choc.
Merci beaucoup Salma Dakhlaoui pour toutes ces précisions. Le conclave qui élira le successeur du pape François débutera le 7 mai prochain, le mercredi 7 mai au matin. Les cardinaux prendront donc part à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront ensuite dans la chapelle Sixtine au cours de l'après-midi. Ce scrutin à huis clos peut même durer plusieurs jours. Il se tient dans le plus grand secret. Il prévoit ensuite que 4 votes par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Justement, je vous propose d'écouter le père Christian Delorme, prêtre de l'archidiocèse de Lyon. Il est très impliqué dans le dialogue interreligieux. Écoutez-le.
Aucun cardinal ne peut être candidat. Aucun. Parce que ça serait mauvais signe. C'est-à-dire que la conviction de l'Église, c'est quand un pape est élu, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, il se manifeste quand tous les cardinaux réunis se sont mis d'accord sur une personne. On ne peut pas être candidat. Si on est candidat, ça veut dire qu'on a un ego surdimensionné, qu'on pense qu'on est capable d'être le chef de l'Église. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui sera nommé, il va tout de suite avouer son humilité, son indignité. Il aura un mérite incroyable, parce que quand même, être le chef d'un peuple catholique de 1,4 milliard de personnes, je crois, aujourd'hui, c'est une sacrée charge sur les épaules. Moi, j'ai été curé de paroisse, déjà à dire, j'ai 1000 zinzans en famille dans ma paroisse catholique, c'est déjà une charge. Alors quand vous êtes le pasteur d'1,4 milliard de personnes, c'est une charge incroyable. Et puis, d'autant plus que les gens qui sont élus, ils sont déjà âgés. Bon, Jean-Paul II avait une cinquantaine d'années, c'était un pape très jeune. Mais bon, François, il est arrivé à l'âge de la retraite, largement à la retraite ecclésiastique, à 75 ans, il s'est retrouvé pape. Hein. Et il avait d'ailleurs déjà une chambre dans une résidence de prêtre âgé. C'est ça qui est assez incroyable. Et puis, il a trouvé une force, une grâce, ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est-à-dire qu'il a été capable d'assumer cette charge jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Quoi.
Et vous attendez du prochain pape élu qu'il poursuive le travail de François dans le domaine du dialogue interreligieux?
Je pense que ça, c'est une évolution de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II, sur laquelle aucun pape ne peut revenir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pape, il est certes le chef des catholiques, c'est d'abord sa mission, il est le pasteur du peuple catholique, mais il est aussi chef d'État, c'est un statut tout à fait à part dans l'histoire, et c'est une instance qui porte le souci de la paix mondiale. Depuis, on peut dire un siècle, hein, depuis le pape Benoît XV pendant la guerre de 14-18, les papes sont devenus des sortes de gardiens universels de la paix mondiale. Tous, chacun avec sa personnalité, son histoire. Hein. Et aujourd'hui, la paix mondiale, elle passe par la paix des religions. Le monde ne peut pas se permettre des guerres de religions. Le monde ne peut pas se permettre que les religions mettent du carburant de haine dans les conflits humains. Et donc le pape, une de ses fonctions, outre celle pour le pape catholique, c'est aussi d'être un gardien de la paix mondiale.
C'était le père Christian Delorme au micro de François-Xavier de Calonne. Aujourd'hui, Paris s'apprête à vivre une journée exceptionnellement chaude avec des températures atteignant 28 degrés, faisant de la capitale non seulement la ville la plus chaude de France, mais potentiellement même la ville la plus chaude d'Europe. Cette vague de chaleur inhabituelle pour la saison devrait se poursuivre jusqu'à vendredi avant une nette baisse prévue ce week-end. Et du foot à présent, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prend l'avantage en demi-finale aller de la compétition contre les Anglais d'Arsenal. Victoire 1-0 à l'extérieur à Londres avec en but d'Ousmane Dembélé. L'autre demi-finale, c'est ce soir Barcelone-Inter Milan à 21h. Paris victorieux en football mais éliminé en basket. Hier, les Parisiens sont fait sortir des playoffs de l'Euroleague par les Turcs de Fenerbahçe Istanbul après prolongation 98-80. Ce soir, c'est au tour de Monaco qui a l'occasion de décrocher son billet pour les phases finales de la compétition à 19h contre Barcelone. L'occasion de revenir sur les enjeux de cette rencontre avec Nils Onimus, commentateur de basket chez Squeak TV. On l'écoute.
Les enjeux sont très simples pour Monaco, c'est écrire son histoire. Ce soir, avec une victoire, ils remporteraient leur série quart de finale 3-0 et seraient qualifiés pour le Final Four de l'Euroleague. Ce serait la deuxième fois en 4 saisons en Euroleague pour Monaco. Ce serait tout simplement historique. Hein. C'est très rare d'avoir des clubs du championnat de France qui accèdent à ce Final Four de l'Euroleague. Donc, gros enjeu ce soir pour les Monégas. Ils mènent 2-0. Ils ont 3 opportunités pour aller chercher cette dernière victoire dont ils ont besoin.
On a l'impression de voir un Monaco qui est plus appliqué, plus collectif en play-off. Est-ce que cette équipe vous impressionne-t-elle ?
Oui, très impressionné. Toute la saison, sur Squeak, on n'a pas arrêté de dire que Monaco, il y avait des hauts, il y avait des bas. On ne savait pas trop. Un coup, ils étaient concentrés. Un coup, ils laissaient passer des matchs à leur portée. On ne comprenait pas trop. Là, on sent l'équipe qui est concentrée, qui met tous les bons ingrédients dans cette série. Défensivement, c'est très costaud, les ballons circulent, ça joue très collectif, on voit enfin tout le talent qu'a cette équipe quand il s'unit pour ne faire qu'un, c'est inarrêtable.
Hier, Paris, l'autre équipe française en play-off s'est faite éliminer de la compétition. Quel bilan tirer de la première saison des Parisiens en Euroleague ?
Il est très très bon, ce bilan de la première année des Parisiens en Euroleague. Personne ne les attendait à ce stade-là, personne ne les attendait en play-off. Déjà, personne n'imaginait qu'ils allaient rivaliser comme ça avec les toutes meilleures équipes d'Euroleague. Il y a une différence de budget qui est monumentale entre Fenerbahçe qu'ils ont affronté en play-off et le leur. C'est tout simplement héroïque, c'est beau pour le basket français. On est forcément déçus de les voir s'arrêter en quart de finale. Ils sont tombés sur un adversaire vraiment plus fort, avec beaucoup plus de moyens, de talent dans l'effectif.
Des propos recueillis par Arthur Claude Savoie. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.